Ce matin, je vous propose d'emprunter le cheminement de quelqu'un dans la Bible. Un cheminement qui l'a conduit de l'orgueil à la louange. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai intitulé ce message « De l'orgueil à la louange ». Ce cheminement, nous le trouvons dans le livre des Psaumes et son auteur est le roi David. Il s'agit du psaume 30 que je vous invite à lire maintenant. Je lis dans la version dite de la Bible à la colombe. Psaume. Cantique pour l'inauguration du temple de David. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles, célébrez son saint nom. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin la jubilation. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. David commence ce psaume, ce cantique, donc par une louange à Dieu. Ce sont les versets 2 à 4 que je relis. « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. » Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Pourquoi David loue-t-il Dieu? Il donne ici quatre raisons dans ces versets que je viens de relire. Premièrement, parce que Dieu l'a relevé, parce qu'il n'a pas laissé ses ennemis se réjouir de ce qui lui arrivait, parce que Dieu l'a guéri, parce qu'il l'a fait remonter du séjour des morts. Que s'est-il donc passé dans la vie du psalmiste? Dans quelle situation, quelle détresse s'est-il trouvé pour dire ensuite cette louange à Dieu? Le titre du psaume nous donne une indication, cantique pour l'inauguration du temple. Il semblerait que l'on puisse aussi traduire cantique pour l'inauguration de la maison de David. Une des hypothèses les plus plausibles qui correspond à la traduction cantique pour l'inauguration du temple serait que David a écrit ce psaume pour la consécration de l'aire d'ornant sur laquelle sera construit le temple. Cet épisode, vous vous en souvenez peut-être, qui se passe à la fin de la vie de David, fait suite à la grande plaie que David a fait venir sur le peuple après le recensement coupable qu'il a effectué. La grande détresse dans laquelle David a été plongé, il reconnaît dans 2 Samuel 24:10 qu'il a commis un grand péché, pourrait servir d'arrière-plan à notre psaume. Une autre hypothèse qui correspond à la traduction « cantique pour l'inauguration de la maison de David » serait que David a écrit ce psaume au début de sa royauté, quand il a fait bâtir son palais à Jérusalem, après avoir conquis la ville de la main des Jébusiens. L'épreuve à laquelle David fait allusion dans notre psaume serait alors une épreuve personnelle qui l'aurait frappé à ce moment-là, mais dont l'Écriture ne parle pas. Notons en passant que la liturgie juive utilisera ce psaume pour la fête de Hanouka ou de la consécration qui célèbre encore aujourd'hui la dédicace ou la reconsécration de l'autel du temple par Judas Maccabée en 165 avant Jésus-Christ après sa profanation par Antiochus IV Épiphane. Tout ceci dit, il n'est pas nécessaire pour bien comprendre ce psaume, d'être sûr de son contexte d'écriture. Mais ce qui est sûr, c'est que David a été dans une profonde détresse dont Dieu l'a délivré. Une profonde détresse à laquelle nous pouvons peut-être nous identifier. En effet, nous avons certainement tous, ou presque, déjà été dans une profonde détresse. Certains ont même été gravement malades et ont frôlé la mort, comme cela semble être le cas pour David ici. Nous pouvons aussi nous identifier aux autres éléments de ce psaume. Ainsi, nous avons certainement tous, ou presque, déjà crié à Dieu dans notre détresse, ou alors déjà pensé à un moment ou à un autre que nous étions suffisamment forts par nous-mêmes, que nous pouvions gérer notre vie sans Dieu. Nous nous sommes certainement tous ou presque déjà réjouis après une délivrance de Dieu. Oui, ce psaume parle certainement, d'une manière ou d'une autre, à chacun d'entre nous. David commence donc par louer Dieu en donnant ses raisons de le faire. C'est normal et une évidence, me direz-vous. En êtes-vous si sûr? Combien de fois avons-nous, à l'instar des 9 lépreux dans les évangiles, oublié de remercier Dieu après une délivrance, après un exaucement de prière? Il est bon pour nous de discipliner notre cœur à la louange et à la reconnaissance à Dieu après avoir été exaucé. David loue Dieu. Il compte ses bienfaits, car Dieu l'a non seulement délivré, mais sans doute même guéri. Je dis sans doute même guéri, car le verbe « guérir » au verset 3 peut aussi être compris au sens figuré. Ceci dit, il semblerait que David ait été physiquement mal en point, au point de s'être rapproché du séjour des morts. Le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts dans l'Ancien Testament, était compris, comparé à un puits immense et obscur. Nous comprenons ainsi pourquoi David utilise le verbe « remonter » quand il dit au verset 4 « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts » ou encore quand il utilise au verset 2 le verbe « relever » qui était utilisé pour parler du seau que l'on remontait d'un puits. David était donc sans doute très malade, à deux doigts de la mort. Et Dieu l'a guéri, Dieu l'a relevé, Dieu l'a fait remonter du séjour des morts. En agissant ainsi, Dieu n'a pas permis que les ennemis de David se réjouissent à son sujet. Il l'aurait certainement fait si David était mort, si Dieu n'avait pas délivré son serviteur. C'est ce que nous comprenons à la fin du verset 2. « Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. » Il peut arriver que nous vivions des choses un peu similaires, en lien avec notre foi. Bien sûr, nous n'avons pas d'ennemis comme David, mais nous pouvons parfois côtoyer des personnes qui se réjouissent des épreuves qui frappent les chrétiens, qui ironisent alors sur Dieu et sur notre foi. « Où est votre Dieu ?» disent-ils alors. « Pourquoi ne vous guérit-il pas ? Pourquoi n'a-t-il pas délivré un tel de la mort ? si Dieu était bon, disent-ils, etc. Il arrive que Dieu permette cela. Nous devons alors compter sur sa grâce pour y faire face, et y faire face de la bonne manière. Il arrive aussi que Dieu nous épargne cela, quand il nous délivre d'une épreuve ou d'une maladie. N'oublions pas de le remercier. Après la louange personnelle pour la délivrance que Dieu lui a accordée, David, au verset 5 et 6, parle de louange communautaire en invitant les fidèles à louer Dieu. Je relis, « Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous, ses fidèles, célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, la jubilation. » Les fidèles, ce sont littéralement dans le texte les saints. Et les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts, mais ce sont ceux qui font partie de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. David invite donc le peuple de Dieu à louer Dieu. Il l'invite d'une certaine manière à le rejoindre dans sa louange. C'est ici le bienfait, la joie du partage, de la communion fraternelle, le bienfait, la joie de pouvoir louer Dieu ensemble, de pouvoir aussi se réjouir ensemble de ce que Dieu a fait pour l'un ou pour l'autre. Je trouve que nous sommes souvent très pudiques, trop pudiques à ce sujet. Peu nombreux, me semble-t-il, sont ceux qui osent partager dans l'assemblée ce que le Seigneur a fait et fait dans leur vie. Combien de fois avons-nous loué Dieu ensemble pour la délivrance ou la guérison qu'il avait accordée à un frère ou à une sœur ? Nous l'avons fait parfois, mais nous pouvons sans doute beaucoup mieux faire. Notre culte, notre communion gagnerait sans doute en authenticité si nous le faisions plus souvent. Dans notre texte, David donne une raison bien précise pour cette louange collective à laquelle il appelle le peuple de Dieu. « Car sa colère, dit-il, ne dure qu'un instant, mais sa faveur toute la vie. » Les pleurs du soir sont remplacées par la joie du matin, dit-il, de façon imagée. Oui, pour ceux qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu, sa colère ne dure qu'un instant, et sa faveur dure pour toujours. Mais pour ceux qui sont en dehors de sa grâce, celle-ci ne dure qu'un temps, le temps d'une vie, alors que sa colère pour eux durera à toujours. Mais pourquoi David parle-t-il de la colère de Dieu ? Comment passe-t-on de la louange à la colère de Dieu ? Après avoir parlé de la louange de David, j'aimerais dans ce deuxième point parler de l'orgueil de David et de la discipline de Dieu. Je relis les versets 7 à 8. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Que comprenons-nous ici de ce qui s'est passé ? Nous comprenons que David s'est trouvé au départ dans une situation où il a tiré gloire des bénédictions de Dieu sur sa vie, où il s'est enorgueilli, puis où il s'est affranchi de Dieu. Dieu avait puissamment affermi sa montagne, dit-il, sans doute ici une image pour parler de sa royauté. Dieu avait donc abondamment béni David. C'était la faveur de Dieu. Mais David s'est enorgueilli au point de dire dans sa tranquillité, « Je ne chancellerai jamais », comme si cela dépendait uniquement de lui. C'est ainsi que David s'est retrouvé à s'appuyer plus sur les bénédictions de Dieu que sur Dieu lui-même. C'est ainsi que David est devenu présomptueux. C'est ainsi que David a quitté la confiance en Dieu pour l'autosuffisance et l'arrogance de celui qui pense qu'il tient sa destinée dans sa main. Combien il est facile, dans les temps de bénédiction que Dieu accorde à ses enfants, de tomber dans ce piège de l'autosuffisance, de l'arrogance et de l'orgueil. De finir par penser que c'est notre main qui nous a bénis, que c'est notre habilité qui en est la cause, que les bénédictions de Dieu, de notre vie, sont notre mérite, que nous sommes l'auteur de notre bonheur. C'est d'ailleurs contre ce danger en particulier que Dieu avait mis en garde son peuple avant qu'il n'entre dans le pays promis. Je lis dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, quelques versets, en commençant au verset 10. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. » Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Combien il est facile pour nous de penser ainsi. Combien il est facile aussi de finir par penser que c'est notre main qui peut non seulement assurer notre bonheur, mais aussi nous garder de chanceler, que nous sommes seuls maîtres de notre destin, que comme le dit David, nous ne chancellerons jamais. Notons bien ici que ce glissement se fait souvent de façon insidieuse. Nous croyons aimer Dieu alors que c'est nous que nous aimons en premier. Nous croyons servir Dieu alors que c'est nous que nous servons en premier. Chers frères et sœurs, la tentation qui nous fait chuter n'est pas toujours la plus violente, la plus évidente ou la plus effrayante. Parfois, ce sont les bénédictions de Dieu qui nous endorment, qui nous font baisser la garde. Jean Calvin écrivait « Plus Dieu nous traite avec douceur, et plus nous devons nous tenir en garde contre cette tentation. » Depuis le jardin d'Éden, Satan ne cesse de nous susurrer à l'oreille la vieille tentation toujours d'actualité. Vous pouvez vous passer de Dieu. Vous pouvez vous affranchir de lui. Vous pouvez couper le cordon ombilical. Vous serez comme des dieux. David est tombé dans ce piège-là. Il a mis sa confiance dans sa force et non plus dans celle de Dieu. Mais il le confesse et il le reconnaît en écrivant ce psaume. « Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. » Cette humilité est une des grandes forces de David, dont la vie n'a pas toujours été exemplaire. Que s'est-il passé ensuite? Nous lisons à la fin du verset 8, « Tu cachas ta face et je fus troublé. » David a d'une certaine manière perdu le sens de la présence de Dieu. Il est troublé car il est loin de Dieu, car il s'est éloigné de Dieu. C'est ici le signe clair que David est un enfant de Dieu, car celui qui ne l'est pas n'en a rien à faire que Dieu lui cache sa face. Il ne se trouble pas pour si peu à ses yeux, alors que l'enfant de Dieu ne peut être que troublé par cela. David s'est donc éloigné de Dieu, Mais ça, ce n'est qu'une des deux faces de la réalité. L'autre face, c'est que c'est Dieu qui a agi, qui a repris David, qui l'a discipliné. C'est la réalité que souligne ce psaume quand il dit « Tu cachas ta face ». L'expression « cacher sa face » peut couvrir un vaste champ. Il faut comprendre ici sans doute la discipline que Dieu a exercée sur son enfant pour son bien. Parfois, quand nous nous éloignons de Dieu, quand nous nous endurcissons, quand nous laissons la chair par l'orgueil prendre les commandes de notre vie, quand nous persistons dans l'erreur et dans le péché, Dieu exerce sur nous, sur ses enfants, une discipline salutaire. C'est ce dont parle le texte d'Hébreux 12, les versets 7 à 11. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas ? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est parce que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien, qu'il nous discipline quand nous persistons dans nos mauvaises voies. Cela paraît toujours au premier abord un sujet de tristesse, mais plus tard, nous pouvons nous réjouir quand nous voyons le fruit de justice que la discipline aimante de Dieu a formé en nous. Oui, la discipline de Dieu est toujours pour notre bien. C'est parce que nous sommes ses enfants que Dieu l'exerce sur nous. Le texte le souligne. Si nous sommes exempts de la correction, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, alors c'est que nous ne sommes pas des fils, mais des bâtards. Les mots sont forts, très forts, mais parce que l'enjeu est crucial. Seuls les enfants légitimes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui le sont devenus par la foi en Jésus, ont droit à la discipline du Seigneur, qui est toujours pour leur bien, toujours pour leur véritable intérêt, toujours pour les faire participer à la sainteté de Dieu. Un mot maintenant, rapidement, sur la confession de David. C'est notre troisième point. David s'est enorgueilli et il s'est éloigné de Dieu. Il s'est enorgueilli et Dieu l'a discipliné. Et cette discipline a porté du fruit, puisque David confesse maintenant sa faute, son péché, il confesse son arrogance. La pédagogie de Dieu a atteint son but. C'est toujours pour nous faire revenir à lui que Dieu nous reprend. David confesse sa faute et nous le voyons supplier Dieu, revendiquer même. Je relis les versets 10 et 11. « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre ? La poussière te célébrera-t-elle ? Racontera-t-elle ta vérité ? Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. » David adopte ici un ton très libre avec Dieu, qui peut nous surprendre, voire nous choquer. C'est comme si David négociait avec Dieu. Il y a deux choses que je voudrais dire ici concernant ce ton de David, sa revendication même. Premièrement, elle traduit simplement son désir de vivre. David ne veut pas mourir, tout simplement. Il s'accroche à la vie. Le temps n'est pas aux phrases mièvres spirituellement correctes. Il y a urgence parce que le séjour des morts est en vue. Le ton de David traduit premièrement cela. Deuxièmement, le ton de David traduit son désir que le Seigneur ne soit pas perdant. Cela peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est peut-être pas tant que cela. En fait, David a le souci de l'honneur de Dieu, le souci de ce qui sera dit de lui s'il mourait. Ainsi, David s'interroge sur ce que Dieu gagnerait à faire descendre David dans le gouffre. Ainsi, David met en avant qu'une fois mort, il ne pourra plus louer Dieu. La poussière, dit-il, te célébrera-t-elle ? Ainsi, David met en avant qu'une fois mort, il ne pourra plus raconter la vérité. La poussière, dit-il, racontera-t-elle ta vérité ? Oui, c'est à la vie que David s'accroche. Et en même temps, c'est dans le souci de l'honneur de Dieu qu'il le fait. Puis David termine sa prière au verset 11 en invoquant la grâce de Dieu, son secours. « Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. » Oui, au final, c'est toujours à la grâce de Dieu que nous revenons. C'est elle qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est elle qui nous ramène à Dieu quand nous nous égarons. C'est elle qui nous fait vivre et revivre. C'est elle qui affermit notre montagne. C'est elle qui change notre deuil en allégresse, comme David le dit ensuite au verset 12. Quelle grâce que la grâce de Dieu! Sans elle, nous n'étions rien. Nous ne sommes rien et nous ne serons rien pour l'éternité. Notre psaume se termine comme il a commencé, c'est-à-dire par la louange. David termine en revenant à la louange. C'est notre quatrième et dernier point. La boucle est bouclée d'une certaine manière. « Tu as changé mon deuil en allégresse, dit-il. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Afin que tout mon être psalmodie en ton odeur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. » Oui, Dieu, en délivrant David, a changé son deuil en allégresse. Il a délié son sac, c'est-à-dire ce vêtement d'une étoffe grossière dont on se couvrait à l'époque en signe de deuil et d'humiliation. Et il a ceint David de joie. Il a bien remplacé son deuil par l'allégresse. L'allégresse du pardon, de la réconciliation, du retour à Dieu. Dieu a puissamment agi en faveur de David. Et David ne peut que louer Dieu. Il ne peut pas rester muet, ni dans cette vie, ni pour l'éternité. C'est pourquoi il termine en disant « Je te célébrerai toujours ». Nous avons ici une indication de l'espérance qui habitait David, de l'espérance de l'éternité, de l'espérance de la résurrection, avec la compréhension qu'il pouvait en avoir, qui habitait David. Que retenir de ce psaume ? Nous avons souligné plusieurs choses tout au long du cheminement de ce psaume, et en particulier la belle louange que David a fait monter vers Dieu. Mais ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que nous avons tellement plus de raisons de louer Dieu que n'en avait David. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes au bénéfice de la venue de Jésus. Imaginez un instant les psaumes que David aurait écrits s'il avait vécu après la venue de Jésus. Ils auraient été certainement merveilleux. Mais en réalité, ces psaumes, ces cantiques, ces louanges, c'est à nous de les écrire. À nous qui sommes au bénéfice de la venue de Jésus, de la compréhension de la croix, la révélation de Dieu et de son salut dont nous bénéficions, n'a aucune commune mesure avec celle que David avait. C'est pourquoi il nous appartient, comme à David, de louer Dieu pour qui il est et pour ses délivrances, ses bontés à notre égard, mais aussi et surtout pour la délivrance qui se trouve en Jésus et en Jésus seul. Une délivrance qui ne concerne pas que cette vie ici-bas, mais la vie pour l'éternité. Ainsi comme David, nous pouvons dire, si nous sommes en Christ, avec la richesse de tout ce que son amour nous a donné, « Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. » Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.